Au maillot, l'exigence de la FIFA plaît pas au prince.
C'est un car tout pays assure et ses croyances. Pour moi, c'est et cela à la dernière minute. Décision risque de démotiver les joueurs, affecter leur confiance avant une compétition aussi importante.
Motiver joueurs, il a fait perdre confiance dans eux.
Reportage dans la capitale à écouter juste après 13h. Vous pourrez aussi entendre le footballeur Philippe Vorbe qui avait joué, lui, la seule autre Coupe du Monde à laquelle il était, c'était en 1974. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
Bonjour à tous.
Avec la mort de David Hockney.
On a appris ce matin la disparition du grand artiste britannique décédé selon son agente chez lui à Londres à l'âge de 88 ans. C'est un grand nom de la peinture contemporaine qui disparaît. Il était devenu célèbre pour son pop art avec des peintures toujours hyperistes et très colorées. Avec nous en studio, Olivier Roger du service culture de RFI. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous.
David Hockney, qui était un grand admirateur de Van Gogh et de Picasso, laisse une œuvre immense. Ces tableaux sont parmi les plus chers au monde.
Effectivement, vous savez ce qu'on dit, on ne naît pas peintre, mais on le devient. Voilà la leçon retenue dès son plus jeune âge, David Hockney. À 11 ans, alors qu'il suit des études artistiques à Bradford, sa ville natale, il peint 12 heures par jour, de 9 heures du matin à 9 heures du soir. Une passion dévorante et un goût pour la couleur, acquis au contact des tableaux de Van Gogh. Mais c'est l'œuvre de Picasso qui va durablement l'influencer au début de sa carrière. La liberté du maître espagnol Hockney l'a fait sienne. Il n'hésite pas à changer son style et sa façon de peindre. Et avec ses condisciples du Royal College of Arts de Londres, il participe à l'émergence du pop art britannique qu'il va peaufiner en Californie aux côtés de l'inventeur du genre, l'américain Andy Warhol. Cette Californie, avec sa lumière si particulière, ses piscines omniprésentes, ses jeunes gens à la plastique impeccable, tout cela va profondément inspirer l'œuvre d'Hockney. L'artiste est aussi un chercheur d'espace. Toute son œuvre est une interrogation sur la façon d'occuper la toile et d'y représenter le monde. Point de fuite, perspective, volume, couleur, rien n'est laissé au hasard. Modeste ou monumentale, ces toiles s'ouvrent avec le temps aux technologies modernes, des photos polaroïdes, des caméras, des vidéos. Hockney a servi toute sa vie l'objet toile avec comme outil premier sa main, son cœur et son intelligence.
Portrait de David Hockney signé Olivier Roger. Merci à vous Olivier.
Toujours beaucoup de questions à propos des États-Unis et de l'Iran.
Oui, beaucoup d'incertitudes et même de confusion. Les Iraniens ont fait savoir ce matin qu'ils n'avaient pas encore tranché sur l'accord annoncé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre, alors que le président américain a lui évoqué une signature dès ce week-end. Il se veut optimiste au point d'avoir annulé des frappes promises contre l'Iran. Selon lui, un terrain d'entente a été trouvé et son vice-président J.D. Vance pourrait très vite se rendre en Europe où aurait lieu la signature. Sur le fond, l'accord prévoirait la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Vital pour l'économie iranienne, les exportations de pétrole subissent une pression énorme en raison du blocus naval américain et aussi de la baisse de la demande. Et c'est surtout la demande chinoise qui diminue. Agnieszka Kumor, bonjour.
Bonjour.
En mai, les exportations de pétrole iranien vers la Chine se sont littéralement effondrées.
Ce sont les raffineries de pétrole indépendantes chinoise surnommée Teyer qui ont réduit leurs achats. D'une part, le blocus du détroit d'Ormuz a réduit les flux et de l'autre, ces raffineries privées craignent de possibles sanctions américaines. Résultat, elles ne fonctionnent plus à plein régime. Les exportations de brut iranien vers la Chine ont ainsi chuté à 160 000 barils par jour en mai contre 1,8 million de barils par jour en février. Résultat, à force de ne pas pouvoir être vendus, des millions de barils de brut iranien se retrouvent stockés, dont près de la moitié sur les navires. Sachant qu'avant le conflit, la Chine achetait la majorité du pétrole exporté par l'Iran, la perte économique est énorme pour le régime des mollahs. Les répercussions de cette baisse de la demande chinoise se font de plus en plus sentir en Iran, même si la rentrée d'argent exceptionnelle due à la hausse des prix de pétrole ont jusqu'à présent atténué les chocs.
En direct dans ce journal, c'était Agnieszka Kumor du service économie. L'armée ukrainienne a lancé une série d'attaques nocturnes de drones sur la Russie. La Russie qui fait état d'au moins 2 morts dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine. Un drone a également percuté un immeuble dans la région de Tatarstan, dans le sang blessant 3 personnes.
Tir croisé sur la diplomatie européenne.
Oui, une bataille interne se déroule actuellement au sein des institutions de l'UE et aussi entre les capitales de l'Union. Macron, et ce au sujet du service européen d'action extérieure. C'est le bras diplomatique de l'Union depuis 2010. Il est dirigé depuis un an et demi par Kaja Kallas, ancienne première ministre estonienne. À Bruxelles, un peu plus de 5000 personnes travaillent pour ce service, qui chapeaute aussi 140 délégations, des ambassades à travers le monde. En direct de Bruxelles, Pierre Benazé. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Après plus d'un an de critiques plus ou moins voilées, eh bien Kaja Kallas et son service extérieur sont maintenant dans le collimateur.
Oui, depuis son arrivée en fait à la tête de la diplomatie en décembre 24, Kaja Kallas fait l'objet de critiques qui sont soit déjà sur la place publique, soit un secret de polichinelle. En interne, dans le service extérieur, on l'accuse d'avoir trop remplacé les personnes clés par des diplomates ou des fonctionnaires en phase avec ses idées, ce qui a appauvri le service. Mais pour Kaja Kallas et le service extérieur, le danger vient de l'autre côté du rond-point Schuman, l'épicentre du quartier européen. D'un côté, la Commission, depuis 2019 déjà, la présidente Ursula von der Leyen grappille des prérogatives diplomatiques, elle voyage souvent, elle crée des services géopolitiques, elle récupère les personnels évincés par Kaja Kallas et elle attribue à la Commission la rédaction des documents de stratégie politique. De l'autre côté, le Conseil, où siègent les 27 États membres de l'UE et où plusieurs pays reprochent à Kaja Kallas de ne s'intéresser qu'à l'Ukraine et de manquer de diplomatie, un comble. Certains envisagent désormais de découper le service extérieur en se partageant les morceaux avec la Commission, ce qui réduirait évidemment les prérogatives de Kaja Kallas.
Pierre Benazé à Bruxelles pour RFI. Le pape Léon XIV achève son voyage de 7 jours en Espagne. Au programme, un échange avec des migrants, ainsi qu'une messe célébrée ce matin en plein air sur l'île de Tenerife, sur l'archipel des Canaries. C'est l'une des principales portes d'entrée de l'immigration illégale vers l'Europe. Nous sommes tous des migrants, a lancé le pape aux fidèles.
C'est un jamais vu qui est lancé aujourd'hui en France.
Encore, ainsi que la première étape vers un vaste parc éolien, l'un des plus importants d'Europe. L'objectif est d'amplifier l'électrification du secteur énergétique français sur fond de guerre au Moyen-Orient et aussi de respect des objectifs climatiques. À terme, ce projet prévoit un parc d'une capacité de production équivalente à celle de 10 réacteurs nucléaires. Les précisions de Simon Rosé.
Près de 10 gigawatts de puissance installée sur toutes les façades maritimes du pays. C'est le projet le plus ambitieux en France dans le secteur de l'éolien en mer. Coup d'envoi ce vendredi donc avec la publication de l'appel d'offres. Il était attendu car c'est l'une des initiatives phares autour de laquelle les autorités espèrent restructurer la filière industrielle en mauvaise santé ces dernières années. Pour la première fois, cet appel d'offres inclut en effet des critères qui favorisent les acteurs européens et français, avec pour objectif de limiter la dépendance aux composants chinois. L'enjeu industriel rejoint également l'enjeu climatique, puisque la France s'est dotée d'une feuille de route pour réduire sa consommation d'énergie fossile. Le pétrole, le gaz, le charbon, l'ustion est la principale responsable du réchauffement mondial. Déploiement important des énergies renouvelables, le pays souhaite ainsi multiplier par 20 ses capacités en la matière d'ici 2005. La publication de l'appel d'offres ce vendredi en marque le coup d'envoi.
C'était Simon Rosé sur le front du virus Ebola en République démocratique du Congo. L'avertissement de l'OMS, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est du pays continue de gagner du terrain avec une augmentation du cas ainsi qu'une propagation à de nouvelles zones géographiques. La grande majorité des infections se concentre dans la province de l'Ituri, mais des cas ont été recensés dans 34 zones de santé réparties entre l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud de Kivu. Mexico a donné hier soir le coup d'envoi du Mondial 2026 de football dans une ambiance festive. À suivre aujourd'hui à Los Angeles, le premier match de la Team USA opposé au Paraguay. Autre pays hôte, le Canada. Il affronte à Toronto la Bosnie-Herzégovine. En France, les drapeaux sont en berne à Florence, petite ville du Gers où se déroulent cet après-midi les obsèques de Liana, la collégienne de 11 ans retrouvée morte, c'était le 4 juin. Affaire qui a beaucoup ému en France. Le principal suspect n'avait jamais été interpellé ou convoqué malgré des plaintes et signalements pour violences sexuelles sur mineurs. Autres obsèques, celles de Bernadette Chirac, la veuve de l'ancien président français, morte à l'âge de 93 ans. Elles ont lieu cet après-midi en la basilique Sainte-Clotilde à Paris, où de nombreuses personnalités du monde politique et du spectacle sont attendues. Le parvis de l'édifice a été sonorisé afin que le public puisse également suivre la messe de l'extérieur. Enfin, la bourse, la tendance est à la hausse. Actuellement, les investisseurs tablent sur un accord imminent entre Washington et Téhéran, plus 2% ce matin à Paris. Paris. Le cours du pétrole, lui, cède plus de 5%. Enfin, c'est le jour J pour la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. SpaceX présente dans le spatial, Internet par satellite ou bien encore l'IA. SpaceX débute sa cotation en levant 75 milliards de dollars à Wall Street, quasiment trois fois plus que le précédent record. 13h et bientôt 12 minutes ici à Paris. Très bonne journée sur RFI. Je vous laisse en compagnie d'Anne Cantner.
Gilles Moreau pour le journal. À tout à l'heure. Et tout de suite, la fabrique du monde. Une plongée dans les coulisses de la diplomatie mondiale. En l'occurrence, d'une conférence internationale organisée dans une heure à Paris sur la solution à deux États. La dénomination perdure et même si dans les faits, à Blajounaïdi, on s'en éloigne de plus en plus, c'est toujours la seule option défendue par la plupart des pays pour Israël et pour la Palestine.
Oui, la création de deux pays vivant côte à côte, un État d'Israël et un État palestinien, envisagé en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec sa propre souveraineté dans les frontières d'avant 1967 et avec une capitale, Jérusalem-Est. Pour Paris, comme de nombreuses capitales, la solution à deux États reste la seule solution envisageable. De l'ONU à l'Union européenne, en passant par les pays arabes et même Washington, c'est la position officielle de la majorité des chancelleries. C'est l'idée qui a guidé les multiples cycles de négociations des accords d'Oslo en 1993 aux discussions de Camp David, puis Taba, puis Madrid. Tout au long de ce processus sans fin, la Palestine a obtenu la reconnaissance de 80% des pays membres de l'ONU, dont la France l'an dernier.
Mais il n'y a toujours pas d'État effectif.
Un État palestinien viable suppose plusieurs éléments, à commencer par une continuité territoriale et un contrôle des frontières notamment. La réalité sur le terrain dit tout l'inverse, rapport après rapport.
Radio HDR.
Radio HDR.
Venez donc, mon cher ami.
Le mix de toutes les cultures.
Soyez pas timide.
99.1 FM.
99.1 FM.
Ceci la liberté, égalité, fraternité.
j'en ai bien peur. Le monde dans le temps qui nous appartient, c'est dans nos mains, alors écoute.
HDR.
Le mix des cultures.
Le mix de toutes les cultures. 99.1 FM.
99.1 FM.
Eh bien, mon cher, qu'est-ce que vous en dites ?
kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous et honorée de vous proposer Repartons. Repartons, c'est la rencontre de lieux, de professionnels et passionnés afin d'évoquer des sujets qui font notre quotidien et nous interrogent.
C'est l'histoire de la grenouille. Si on plonge une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va tout de suite se barrer. Si on plonge une grenouille dans de l'eau froide et qu'on vient augmenter très légèrement à chaque fois d'un demi-degré, elle va rester jusqu'à être ébouillantée. Cette histoire de la grenouille, c'est ça l'histoire de l'emprise. Et c'est ça l'histoire de l'emprise avec un pervers narcissique. Donc tout ça se délite sur de nombreuses années.
C'est ton regard. Oui, c'est sûrement ton regard qui m'a convaincue. Encore maintenant, je me demande pourquoi. J'avais tellement... J'avais 20. J'avais vivre à fond. J'étais curieux. J'étais... Et de mériter d'être aimée.
J'ai 20 ans.
Ça s'est fait lors d'une soirée où on était invité par des amis communs. C'est quelqu'un que je connaissais pas du tout et j'ai même failli pas arriver à cette soirée parce que des amis n'avaient pas tellement envie de venir et moi j'avais pas envie d'y aller toute seule. Donc c'est une rencontre qui aurait très bien pu ne jamais se faire. Et puis finalement, on s'est rencontrés là-bas.
Alors on parle de cette histoire, nous sommes en 1992. Pierre, comme je le comprendrais presque 30 ans plus tard, va utiliser en fait une méthode très très classique de séduction qui porte un nom, qui s'appelle le love bombing. Pierre me plaît pas plus que ça, mais je vais devenir sa jolie proie qu'il va attraper entre ses griffes de façon, moi, très naturelle et sans pour autant comprendre ce qui va se passer. Je vais tomber amoureuse. Nous suivions les mêmes études, Pierre et moi. Il y avait aussi en lui l'idée de convoitise et ça, c'est ce qui me faisait peur. J'ai toujours eu peur d'être sur un tableau de chasse d'un homme. Voilà, on est étudiant, on fait des soirées, c'est la vie classique des étudiants. On va prendre un verre, on va se retrouver à danser et puis on va s'embrasser assez rapidement.
C'est quelqu'un qui était extrêmement charismatique. Je me souviens très bien de son entrée dans la pièce avec son casque de moto. C'est quelqu'un qui m'a fait un effet waouh dès que j'ai posé les yeux sur lui. Et puis je le trouvais beau en tout cas à ce moment-là. Je me souviens de son sourire en fait. C'était quelqu'un de très solaire. Je crois que c'est ce qui m'a plu tout de suite, son côté solaire. On s'était retrouvés un moment tous les deux à faire connaissance en fait, parce que finalement il y avait assez peu de gens que je connaissais pas à cette soirée-là. Puis le courant était bien passé, donc on a échangé nos numéros, puis on s'est dit qu'on aimerait bien se revoir. Moi je sortais d'une relation qui avait été un peu compliquée, et j'étais pas tellement dans l'objectif de me recaser, quoi. C'est surtout quand on s'est revus que là, il m'a plu vraiment, parce que j'avais l'impression que quelqu'un s'intéressait vraiment à moi, à qui j'étais, à ce que je faisais. Et c'était assez valorisant dans cette période de ma vie où, en plus, j'avais été largué comme une chaussette dans le métro parisien. Et où je me souviens de cette relation précédente où je m'étais retrouvé en plein milieu de la nuit à Paris, sans toit pour crécher, à devoir appeler au secours mes parents pour qu'ils viennent me chercher, parce qu'il n'y avait évidemment plus de train pour rentrer en Normandie. Donc oui, c'était assez valorisant cette discussion, parce qu'il y avait quelque chose qui me réparait quelque part. C'était quelqu'un qui était à l'écoute, quelqu'un d'extrêmement intelligent, voire même brillant. Et je crois qu'en fait, j'étais aussi dans cette quête-là, d'aller chercher quelqu'un avec qui, intellectuellement, ça pouvait aussi passer, qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Et le fait que je le trouve très beau, ça rajoutait quelque chose à l'équation. Il me faisait rire et il m'écoutait. Tout est allé très vite. Cette deuxième rencontre, elle s'est faite chez lui. Il m'a embrassé et c'était ok pour moi. Et j'étais même voilà, sur mon petit nuage. J'avais l'impression que c'était le début de quelque chose de chouette.
Il est brillant. C'est un type hyper brillant. Et ça, je vais le comprendre très vite. Il est fin, il est brillant, il écrit extrêmement bien. Il est drôle, il me fait rire. Pierre va faire plus que ça. Je vais devenir une déesse, une princesse. J'ai toutes les qualités requises. Pierre me regarde comme si j'étais la sixième merveille du monde. C'est une méthode extrêmement classique, qui est très déstabilisante, qui s'appelle love bombing. Donc on va donner à sa victime tout un panel d'amour, de sublimation, d'élévation au-dessus des nuages, qui ne succomberait pas à ça, particulièrement à 20 ans. En réalité, pendant plusieurs semaines, mois peut-être, on va être totalement idolâtré. Il y a de l'idolâtrie. Au début, en tout cas, les preuves d'amour sont multiples, à tel point que Pierre habite encore chez ses parents. Moi, j'ai un appartement. Il va tout quitter. Et il va venir habiter très vite chez moi. Mais quand je vous dis très vite, c'est 24 heures, 48 heures. Le mot emprise n'arrivera pas pendant plusieurs décennies.
J'étais amoureuse de l'image qu'il me renvoyait de moi aussi. Les premières semaines, quand je lui parlais de mon boulot, il trouvait que c'était formidable. Moi, j'avais des rêves assez dingues encore à ce moment-là. Et il me disait qu'on allait tout faire pour les réaliser parce que c'était important. Il me faisait croire que j'étais importante. Vraiment. C'était beau. Et j'avais à ce moment-là, de toute façon, aucune raison de me méfier. Parce que tout était paradisiaque. C'était vraiment la lune de miel. Ah, c'était un bonheur absolu. J'étais la huitième merveille du monde pendant à peu près 3 semaines.
Sur le moment, on laisse tout passer parce que c'est trop beau d'être aimé.
C'est sans doute pour ça, pour ton regard, où je me trouvais belle. Celui qui présage le début de belles aventures. Et puis, on a discuté des heures. Et le monde autour de nous, nos amis qui écoutaient de la musique, riaient parfois, nous espionnaient, demeurant bruyant, n'existait plus. Nous étions